Ah, vous connaissez l'histoire du lit vertical?
Non, qu'est-ce que c'est?
Allez, à dormir debout.
Oh yeah! Venez à la Radio Pickers.
Bienvenue sur la Radio Pickers.
La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Je rallume les micros.
Ok.
Petit bug technique.
On revient.
Première midinale, j'ai fait une Nico, normal.
Voilà, c'est la midinale au Royal, le PMU de la place Guérin. Pierre, qu'est-ce que tu voulais nous raconter?
Alors oui, je voulais essayer de préparer quelque chose pour aujourd'hui. Mais...
Alors je vous. Il est assez mal installé, coincé dans, derrière une banquette,
pas...
avec un ordinateur mi-ouvert sur ses genoux.
Mais bon, je vais essayer de faire quelque chose et surtout de préparer un truc un petit peu plus sérieux pour la semaine prochaine. Je voulais faire pour vous raconter comment je suis arrivé à ça, je me demandais un peu de quoi causer. Je traînais un peu sur les internets ce matin. Donc un truc que je fais assez régulièrement, c'est je vais voir un peu les nains soumis de Brest ou même le truc de Mélenchon, machin. Je trouve toujours un truc qui m'énerve tellement que ça me donne envie de réfléchir. Donc là aujourd'hui c'était sur le compte Twitter Brest Insoumise. Il y avait un truc qui disait « Ce qui se passe à Rouen est une dure leçon pour tous. Cet incendie montre le manque de volonté comme de capacité de notre gouvernement à agir lors d'un accident majeur en France et devons être capables d'en accueillir les réfugiés. » Hashtag Lubrizol, donc la boîte là qui a cramé à Rouen, dont une usine a cramé à Rouen. Hashtag Pontagnou. Donc la prison de Pontagnou à Brest. Hein. Et après un lien vers un article donc, de Brest Insoumise, les Insoumis de Brest. Donc ce qui est dit là, je vais pas en parler parce que évidemment, si vous avez suivi un peu les autres médias, un petit peu plus traditionnels, vous avez compris qu'on n'avait pas beaucoup d'infos, que c'était un scandale industriel. On ne sait pas trop pour l'instant, donc on en saura peut-être plus lundi prochain, mais actuellement ça ressemble quand même à une des pires catastrophes industrielles qui ait eu dans ce coin du monde pour l'instant. Avec sans doute des dizaines de milliers de personnes impactées au niveau de leur santé potentiellement, donc ça va créer des cancers, y compris des enfants, etc. Bref. Et ce qui m'a. Et vous avez peut-être remarqué quand je vous ai lu le tweet, il y avait un truc chelou quand même, c'est le et à la fin, et machin, nous devons accueillir les réfugiés, et hashtag Pontagnou. Donc j'ai été voir l'article quand même qu'allait avec, qui s'appelle Solidarité et accident industriel, par Christophe, donc Christophe Oswald, qu'on a déjà eu au micro ici. Et donc qui est quelqu'un, je pense qui a sa, tu vois, une idée assez précise des dangers industriels, enfin disons machin. Et donc j'ai pas été surpris par ce truc des insoumis. En gros ça raconte qu'il va y avoir des incidents industriels comme ça, que les gens du coup à Rouen, et là c'est le cas, hein, y en a plein, ils ont pris leurs gamins, ils sont partis, hein, parce qu'ils savent pas en fait les dangers de... Tu vois. Et donc il va y avoir de plus en plus de réfugiés comme ça, industriels ou climatiques ou machin, et ça va poser des questions d'hébergement. Or, à Brest, et là on rentre plus dans la politique politicienne de merde, la mairie actuelle est en train enfin voudrait remplacer l'ex-prison de Pontagnou par des constructions de logements, des immeubles un peu de luxe, enfin on sait pas trop, enfin toujours vers le truc des Capucins. Donc,
un quartier rénové par la ville de Brest, enfin par Brest Métropole.
On va dire une critique très, très générale qu'on peut faire à la mairie de Brest, à l'équipe socialiste actuelle, de faire que des projets immobiliers, vides, machin, enfin bref. Et donc, ce qui est un peu dégueu dans cet article, c'est que c'est de profiter, disons, de cette catastrophe pour en revenir à de la politique politicienne de merde en vue des municipales, quoi. Bref, parce que après c'est un vrai problème aussi cette histoire, voilà, à Pontagny, machin. Mais quel est le rapport avec Rouen, quand même, on comprend pas trop. On pourrait dire il faut réquisitionner des logements, point barre. Ça n'a rien à voir avec Pontagny. Hashtag Lubrizol, hashtag Pontagny, bref. C'était pour me foutre un peu de leur gueule, j'aime bien. Pour continuer sur cette histoire de ce qui s'est passé à Rouen, donc on a peu d'infos, on va essayer d'en avoir un peu plus pour lundi prochain. On entend pas mal le mot Céveso. Donc c'est un site Céveso. Céveso, c'est une catastrophe industrielle, toujours, qui a eu lieu en juillet 1976. Donc Céveso, c'est un village d'Italie. C'est pas une catastrophe si grave, on pourrait dire. Enfin, il n'y a pas eu de mort directe, il y a eu sûrement, comme il va y avoir là à Rouen, des retombées à long terme avec pareil des enfants empoisonnés, etc. Mais en tout cas, c'est pas Tchernobyl non plus. Mais en tout cas, ça avait amené les pays européens à créer cette norme dite Céveso qui cherche à identifier les sites industriels dangereux. Donc entre autres, qui peuvent avoir, s'il y a un accident, ça peut avoir des impacts sur plusieurs pays. Comme par exemple, Lubrizol là, avait déjà eu des incidents sur son usine à Rouen, avec un dégagement de gaz qui avait touché Paris, Londres, enfin voilà. C'est pour ça que ça existe, cette norme Céveso. Et donc ça oblige les boîtes qui font des trucs dangereux à certaines normes, évidemment, et surtout à une information du public, parce que comme ça on est censé savoir réagir, etc. Et puis après il y a tout un plan de technique qui se met en place, surveillé par les préfectures, pour en gros s'assurer qu'ils mettent en place ces normes techniques de sécurité, s'assurer qu'ils savent comment réagir en cas d'accident, que la préfecture, les pompiers, tout ça savent aussi, et aussi qu'on sait comment informer la population s'il faut leur dire cassez-vous, enfin tirez-vous le plus vite possible, prenez votre bagnole et barrez-vous, barricadez-vous chez vous, des trucs comme ça. Parce que les gens, là, en ce moment, à Rouen, n'ont pas l'air de savoir. Ça n'a pas l'air clair. Les médias traditionnels sont complètement dingues. J'avais vu un titre, je l'ai pas l'onglet, là. Je l'ai toujours sur Le Monde. Mais en gros, les médias traditionnels, ils se retrouvent là dans une position qui devient de plus en plus débile, c'est-à-dire ils font la com de la préfecture, comme d'habitude, quoi. Donc ils disent, il n'y a pas trop de problèmes, mais les gens sont inquiets. Parce qu'en fait, ils ont quand même une mission d'information du public et ils se rendent compte qu'ils ne la font pas. Enfin, par exemple, c'est très dur de trouver des photos des retombées du truc. On voit toujours des photos de la fumée dans le ciel, mais on s'en fout de la fumée dans le ciel. C'est quoi les impacts sur les gens? Enfin, voilà. En tout cas, ça a l'air extrêmement grave. Toute la bouffe du coin a été interdite, les œufs, le lait, tout, etc.
Je crois qu'il y a déjà une centaine de communes de concernés, quoi.
Ouais, c'est peut-être la pire catastrophe industrielle, matin, avec des dizaines, voire des centaines de milliers de gens qui ont infectés, qui auront des cancers. Donc,
là, ils parlent déjà des enfants noirs depuis ce matin. Et quand tu disais, ouais, c'est les eaux, c'est pour s'assurer qu'on informe bien la population. Je pense qu'il y a un truc qui merde dans le. Ça marche pas, quoi.
On dirait.
C'est être sur les grandes lignes dans le papier, mais à l'arrivée, depuis l'accident, il n'y a pas de communication, les gens démerdez-vous, et puis on s'aperçoit aujourd'hui que ça y est, tout le monde est pollué, intoxiqué, et on n'a pas encore.
Et on sait toujours pas. Mais en tout cas, par exemple, si les gens fallait qu'ils partent, on leur a pas dit.
Non, le premier truc, c'est où j'ai bien rigolé, enfin, ça m'a pas fait rigoler, c'était rester chez vous. Donc reste bien dans la zone polluée, quoi. Tiens, tu restes chez toi, tu t'en vas pas.
C'est
quoi.
Ce que ça veut dire, c'est reste enfermé chez toi, qui est une des mesures, tu vois, d'alerte qu'on peut faire. Mais par exemple, ce dont je veux parler, c'est en quoi ça nous concerne aussi à Brest, machin. Et donc dans le plan de Brest, par exemple, et j'imagine sans doute à Rouen aussi, il y a un truc qui est prévu avec des alarmes, tu sais, comme la sirène des pompiers, quoi. Le truc qui pète tous les 5 minutes. Et voilà, ça te dit reste chez toi. Enfin, tout le monde comprend qu'il y a un problème très grave, machin. Et du coup, ben, tu vas barricader tes fenêtres, je sais pas, peut-être des trucs comme ça. Et visiblement, à Rouen, ça n'a pas été le cas. Et c'est toujours pas le cas. Et la préfecture raconte des conneries et c'est repris partout dans les grands médias traditionnels.
La première chose qui a été dite, c'était oui, on a fait des mesures de la fumée. Alors, ils ont été forts, ils ont réussi à faire des mesures de la fumée, quoi. Genre, même pas une heure après que la catastrophe ait commencé, ils avaient déjà des mesures qui disaient que les fumées n'étaient pas toxiques. J'étais impressionné de ça, ouais. Toi, scientifiquement. Je dis, oh, ils sont forts quand même. Ils ont déjà envoyé des drones dans le machin et tout.
Puis à Brest, du coup, il y a plein de sites Céveso, il me semble. Et en vrai, si ça pète, on sait pas ce qu'on doit faire.
Non.
J'ai ça, super transition, bah,
ouais.
Ouais, parce que c'est vrai, restez que chez vous, coup, si vous avez calfeutré les fenêtres, ouais. Mais la plupart des gens n'ont pas ce réflexe-là, quoi.
Bah, c'est là, du coup, que j'ai voulu m'intéresser à ce que ça voulait dire pour nous. Parce que, en gros, à Brest, il y a un sentiment diffus où on sait qu'il y a des trucs dangereux. Enfin, voilà, on sait qu'au port, il y a du gaz, du pétrole, machin, et puis on sait qu'à l'île Longue, il y a des sous-marins nucléaires. Donc il y a un truc diffus de on sait qu'il y a des dangers, mais par exemple je voulais faire un petit tour de table. Est-ce que vous savez combien il y a de sites Céveso? Donc alors il y a deux classifications Céveso, si vous voulez. Il y a un truc ça s'appelle SB, c'est Céveso bas, c'est-à-dire il y a des dangers, mais si ça pète c'est pas une centrale nucléaire, quoi. Et puis il y a Céveso haut, donc type une centrale nucléaire, où là si ça pète il va y avoir des morts a priori, quoi.
Et là, ta question, c'est combien ?
Est-ce que vous savez où ils sont et combien il y en a ?
On est désolé de la pollution sonore qui nous arrive dans le café.
Oui, il y a les gens qui viennent nettoyer la place.
Avec un appareil que je kiffe toujours, une souffleuse pour souffler les feuilles, très utile dans ce genre de région où il y a plein de vent, quoi. Ça aussi, c'est un bon scandale, quoi. Bon, il va bientôt passer.
Bon, alors, est-ce que vous savez ? Est-ce qu'il y en a qui savent ? À Brest, ouais.
Aucune idée.
On teste, on vote.
Donc tu vois, et moi non plus, je savais pas, quoi. J'ai été voir
région, dans la région.
Non, Brest.
À Brest, quoi.
Ouais, parce que en fait, l'idée du truc Céveso, c'est d'informer à la fois les pays voisins, machin, donc et les riverains. Donc toutes ces données ont l'air publiques. Hein.
Donc c'est un gros truc quand même. Enfin, c'est.
Voilà, donc à Brest, il y a trois sites Céveso haut là, SH, donc très très dangereux, et les trois sont au même endroit. Ils sont au bout du port là. Donc t'es presque sorti de Brest, il y a un panneau au Brest là, vous voyez la petite station Total quand vous sortez pour aller donc vers Quimper machin là.
Donc c'est le port de Plaisance, vers le port de Plaisance.
Ouais, juste avant le port de Plaisance, quoi. Voilà, les trois sont là. Il y a
la raffinerie.
Il y a deux compagnies, il y a Primagaz CGPP ex Importgal. Eux, ils importent du gaz et ils le mettent dans les bouteilles de gaz là que tu retrouves dans les à Leclerc, quoi, ou machin. C'est de là qu'elles viennent. Et donc ça, c'est extrêmement dangereux. Ça arrive avec des gros bateaux remplis de gaz. Enfin, là. C'est aussi les grosses boules là qu'on voit. Vous voyez. Donc avant, il y en avait trois. Maintenant, il y en a plus que deux. Ils ont fait des trucs, des tanks sous terre, enfin un peu plus sécurisés et tout. Mais bon, ça, sans doute, c'est du gaz liquide, si ça pète, du gaz non liquide, si ça pète, on n'est pas bien. Et il y a une autre entreprise, donc à L2 site Céveso, les deux sont au même endroit, à côté là, de Primagaz CGPP. L'entreprise s'appelle Stock Brest, et donc il y a Stock Brest 1 et Stock Brest 2. Eux, c'est le pétrole, quoi. Donc Stock Brest 1, c'est là où viennent les camions, c'est le truc qu'on dit, on bloque des fois là. Donc les camions qui vont remplir après les stations essence. Et l'autre, c'est plus pour des produits pétroliers, mais un peu transformés, genre fuel, machin. Mais c'est eux qui ont les deux dépôts. Quand on dit dépôt pétrolier, c'est de ça qu'on parle, en fait. Et qui gèrent le pétrole, pareil, avec des cuves énormes, donc qui peuvent péter, fuir, des trucs comme ça, quoi.
Déjà, là-dedans, un truc qui me choque, c'est des sites Céveso, donc au risque, quoi, mais on les met les uns à côté des autres, déjà. Donc il y en a un qui pète, potentiellement, il fait péter les deux autres, c'est cool.
Bah, tu vois, c'est un des trucs où n'importe quelle personne, tu vois, informée, ouais, peut se poser cette question-là. mais vu qu'on n'est pas informé, bah, ouais. Alors après, donc, ce que je vais essayer de faire un petit peu plus tard, lundi prochain, quoi, je veux dire, c'est essayer de décrire un peu plus précisément quoi, les risques, machin, et on pourra en parler plus longuement parce que je voulais pas que ça dure trop longtemps non plus. Mais justement, une des questions que ça pose, c'est qu'il y a qui à côté ? Et je suis tombé sur un article de lundi matin, qui date de ce matin, et qui parle de Rouen, et qui dit Lubrizol, les gens du voyage en première ligne. Parce qu'en fait, du coup, ben déjà, gens du voyage, ça veut dire enferme-toi dans ta cave, ben t'as pas de cave. S'il y a un truc, enfin disons, eux, ils ont pas une maison aussi facile à nettoyer, par exemple, quand t'as une maison en dur, ils ont pas les services publics qui vont venir nettoyer, machin. Donc j'ai pas eu le temps de lire l'article complet de lundi matin, mais ça m'a quand même fait penser que, vous savez, qu'est-ce qu'il y a en face de ces sites Céveso ? Il y a donc la route qui passe, qui va à la station Total, et en face, les gens du voyage. Enfin, ils sont plus là maintenant, mais c'était là qu'ils étaient. Donc en fait, il n'y a pas d'habitation là, parce qu'il y a les sites Céveso à côté, mais on peut quand même y mettre les gitans, quoi. Et ben, c'est ce que remarque lundi matin dans son article. Et visiblement, à Brest, c'est fait pareil. Alors après, derrière, il y a des hauteurs, mais il faut voir que, quand même pas très loin, quoi, il y a donc tout le quartier qui est après le pont du Forestou, là. Donc quartier
Saint-Marc.
Comment il y a le début de Saint-Marc et le mot que je cherchais, c'est le Guelmeur. Et il y a l'école Diwan, par exemple. Enfin, il y a plusieurs écoles, plusieurs lieux où on fait du sport, machin, où il y a des enfants, machin. C'est quand même une zone habitée où on, bah voilà, si t'as trois dépôts pétroliers qui pètent.
Je pense pas que la falaise de 50 mètres ça fasse grand chose, qui fait même pas 50 mètres.
Donc voilà, c'était un début de réflexion sur essayer d'informer un peu, s'informer nous et puis informer les gens qui écoutent sur où ils sont ces sites-là, qu'est-ce que ça veut dire à Brest, etc. Et on reviendra dessus lundi prochain en reparlant de Rouen avec un peu plus d'infos aussi, je pense.
Ok.
Intervention.
Pascal, tu voulais réagir ?
Alors du coup, pour éviter la diffamation, enfin les procès, je me pose la question, voilà. Je me pose la question s'il n'y a pas des entreprises classées Céveso qui bossent dans l'algue en Bretagne, autour de Brest. Je me pose la question du coup si elles ne déversent pas de la merde dans les abers, je dirais pas lesquelles, il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Et je me pose la question si elles ne sont pas prévenues des contrôles de la DRIR 48 heures à l'avance. Voilà.
D'accord. Ouais. Toi, tu dis donc peut-être sur des sites classés un peu moins forts au niveau danger aussi, mais
ouais,
qui ont des gros impacts environnementaux, par exemple.
Ouais, je crois que ça va de 1 à 4 ou de 1 à 3 le classement Céveso.
J'en saurai plus la semaine prochaine. Je vais travailler un peu plus. En tout cas, le niveau haut là, ben toi, c'est comme ce dont on parlait à Brest ou l'usine là, qui a pété à Rouen. C'est des trucs, si ça pète, il va y avoir des morts, des gens intoxiqués, etc.
Du coup, sans avoir des morts directes ou des intoxications directes, effectivement, quand des boîtes bossent avec des produits chimiques, genre acide sulfurique, formaldéhyde et compagnie, quand tout ça se retrouve dans les bassins de décantation, de traitement et autres, bassins qui débordent, ouais, c'est rare parce qu'il ne pleut pas beaucoup en Bretagne, effectivement, où ça se déverse, quoi. Notamment quand il y a des abers pas loin. Voilà. Donc il y a deux abers en nord de Brest, c'est assez connu.
Ouais, peut-être pour donner idée de chiffres, on regardera peut-être ensemble, si tu veux, mais en Bretagne, hein, sur les quatre départements bretons, il y a 25 sites Céveso haut, là, donc comme les trois dont on parlait à Brest, comme l'usine Nobel Sport, par exemple, à Pontbuis, dont on a déjà parlé, et 27 seuils bas. Donc, qui sont à la fois moins surveillés ou qui peuvent faire des petits arrangements, comme tu disais, et qui peuvent avoir des énormes impacts aussi. C'est pour ça qu'ils sont Céveso, mais qui se verront pas comme une usine qui explose, mais qui peuvent avoir des impacts environnementaux, par exemple.
Ouais, parce que quand
pour les gens,
toutes les semaines, effectivement, de la flotte qui se déverse dans des cours d'eau,
ça tue pas directement les gens, ça tue d'abord le biotope, après les gens qui bouffent les poissons qu'il y a dans le coin.
Puis l'eau qu'on boit. L'eau aussi, j'étais en train de suivre des articles sur la pollution de l'eau dans le Finistère où toute la région de Brest, on dépend beaucoup, c'est là que ma géographie locale au niveau des noms limite, c'est le cours d'eau qui passe par, par Châteaulin, par là. On dépend beaucoup de ce cours d'eau là qui est pas mal pollué et où Eau et Rivière diffuse régulièrement aussi des vidéos d'endroits où y a des poissons morts, normal. Et ces cours d'eau alimentent nos châteaux d'eau desquels nous on va puiser notre eau potable.
Thibaut, tu voulais parler, nous présenter un magazine.
Ouais. Moi, je voulais vous parler d'un zine sur Internet qui s'appelle Rafale et qui n'a rien à voir avec Dassault, je vous rassure. L'idée du magazine, c'est le sous-titre, c'est le copain des bois de la débrouille. Donc, c'est plein de, c'est en mode do it yourself avec plein d'astuces et de techniques plutôt illégalistes. Et sur des domaines assez variés, ça peut être informatique sur les puces RFID pour les effacer, les réutiliser, ça peut être sur comment crocheter une serrure ou la liste, les détails de comment fabriquer un passe PTT. Il y a même un fichier pour le faire, pour l'imprimer avec une imprimante 3D. Mais il faut quand même une imprimante 3D de précision, j'ai essayé avec une classique, ça marche pas très bien. Et il y a plein d'astuces aussi comment monter une radio pirate. Et donc le zine, il a paru en octobre 2006. Il est sur internet en format assez moche au départ. Donc c'est en HTML, on télécharge un truc, on clique dessus, ça s'ouvre avec votre navigateur web. C'est pas hyper facile à lire. Et du coup, il y en a trois qui ont été réédités. Donc au format papier qui peut-être sont encore trouvables quelque part, mais sinon sont libres en PDF, qui reprennent des articles d'un peu tous les autres. Alors il y en avait à la base, je l'ai pas sur moi. Ah oui, ils sont trouvables sur rafale.org. Et il doit y en avoir une vingtaine. Et donc ils ont repris des articles de cette vingtaine de zines qu'ils ont réécrit et qu'ils ont remis en page un peu plus joli avec les images qui vont bien et les dessins, les schémas. C'est plutôt cool, je vous conseille grave la lecture. Et je vais juste vous lire le quatrième de couverture du numéro 1 pour vous donner envie. Rafale est du côté de Bonnie and Clyde. Rafale n'aime pas le management. Rafale te souffle à l'oreille le chemin de la porte de sortie. Rafale défonce les murs en crépi avec son front. Rafale aime les écarts, les interstices et les failles. Rafale n'aime pas les poucaves et les insignes. Rafale lime des passe-partout dans une cave. Rafale séquestre le DRH avec un couteau suisse et cure-dent. Rafale est de ces honnêtes bagarreurs qui dégueulent sur le trottoir la tête haute. En somme, et c'est bien la moindre des choses, si tu ne portes ni képi ni casque homologué sur ton booster, Rafale est de ton côté.
Du coup, il y avait une première... Enfin, à l'époque où c'est sorti, les premiers Rafales, là, en 2006, il y avait eu des versions papier qui avaient été faites.
Okay.
Peut-être que je peux retrouver ça, quelque part. Et c'était effectivement pas très joli, mais je crois que ce qui était intéressant, c'était le contenu et tous les petits trucs de débrouille et de DIY que ça donnait. Et ouais, je pense qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui a envie d'intervenir parce qu'il y a un nouveau projet.
Du coup, il y a un nouveau projet qui, on peut pas vous dire quand ça va commencer, mais je peux vous dévoiler en avant-première le nom de l'émission. Ça va s'appeler Magouille Magazine. Et dans Magouille Magazine, on a prévu de vous parler également un petit peu de Rafale. Voilà. C'est une nouvelle émission de radio, oui, qui devrait commencer d'ici quelques semaines.
Oh là là, quelle rentrée!
Tu vas vraiment aller au tribunal par contre. Ouais.
Voir direct à la case prison sans passer par le tribunal.
Steph, t'as encore un livre ou...
Ouais.
t'as encore pris un truc à l'arrache chez toi avant de venir ou...
Ouais, c'est tombé dans ma boîte mail ce matin. C'est carrément officiel tout ça, et dans une très grande maison d'édition, mais c'est pas grave, une fois n'est pas coutume. C'est parce que c'est quelqu'un que moi j'aime bien, qu'on est plusieurs à bien aimer, et qui a fait un sacré beau boulot ces derniers mois. C'est David Dufresne, donc pour rappel, journaliste à l'O Place Beauvau, qui a suivi beaucoup tous ces derniers mois, et qui a recensé les violences policières sur différentes manifestations.
Journaliste indépendant.
Ouais. Et qui fait vraiment du gros boulot, quoi. Et en plus de tout ça, il a écrit un roman, donc qui sort le 2 octobre, donc dans 2 jours. Et ça sort donc chez une grosse maison d'édition, donc on s'en fout, on va pas la citer. Donc son roman s'appelle Dernière sommation. Et il va passer par la fiction, mais là aussi pour raconter la même histoire, quoi. Mais sauf qu'il va l'écrire de manière différente. Je vous lis ce que l'éditeur écrit sur le livre. Donc, dans le Paris de l'insurrection, un enquêteur indépendant, une jeune réalisatrice qui tombe aux marches de l'Assemblée nationale, sa mère sur un rond-point du Tarn, passée du Parti socialiste au Rassemblement national, le directeur de l'ordre public, un républicain qui veut croire en la police, Place Beauvau, un ministre qui tweet et qui tangue. Et tout un monde qui traverse, dernière sommation comme un tableau vivant, garde du corps incontrôlable, street medic courageuse, président assiégé, policier en roue libre, éditorialiste compromis, entre mensonges et raison d'État. Et donc c'est le premier roman de David Dufresne qui sort dans 2 jours. Donc on en reparlera la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais juste, ouais, c'est fin. Moi, je vais aller l'acheter vite et le lire vite pour pouvoir en reparler.
Ouais, moi, sous la forme du roman, je le soupçonne assez fortement de vouloir raconter des trucs journalistiques, mais sur lesquels il peut pas enquêter au point de pas se prendre une enquête en diffamation.
Moi, je trouve ça encore une fois très interrogant que David Dufresne sorte un roman sur une grosse maison d'édition. C'est quoi en fait le but? Se faire de la thune sur la lutte? Alors, en fait, plutôt que de l'acheter, allez le voler.
Ouais, ça c'est possible. Allez le voler chez Dialogue, quoi.
Moi, je suis aussi. Je pense que c'est hyper dur de gagner sa vie en écrivant des livres. Et que,
en étant journaliste indépendant, rebelle, ouais, un peu, je pense.
Et qu'à un moment, pouvoir aussi avoir une grosse édition, en sachant que tu publies ailleurs, je pense qu'il faut aussi bouffer à la fin du mois. Quoi.
C'est une maison d'édition, ça fait partie des gros trucs d'édition, un peu dégueulasse, quoi.
Ok.
Je suis pas contre le fait que David Dufresne il se mette un peu de thune de côté.
Mais par contre, il va faire
de l'argent. Ouais. Qu'il soit peinard pour travailler. Voilà. Il va pas devenir riche à millions avec un livre.
Non, c'est sûr que non.
On sait comment fonctionnent les grosses maisons d'édition. C'est pas lui qui va devenir riche, en fait. C'est la maison d'édition qui va se faire de la thune. Et du coup, quand tu écris, en fait, réfléchir à comment t'es édité, ça paraît quand même super important. Il y a aussi d'autres maisons d'édition qui font du taf de ouf et qui vendent des bouquins à des prix raisonnables, et enrichir une grosse maison d'édition politiquement, moi ça me pose question, quoi.
Ouais. Moi aussi, hein. C'est, enfin, vraiment pas. Après c'est j'ai quand même envie de
Tu pourrais lui dire, alors. Non, je crois que
ouais, mais je attends.
Il est en train d'écouter. Salut David.
Si tu nous écoutes, si tu nous réécoutes, on te kiffe quand même.
Ouais.
Mais que tu nous expliques cette
histoire. Oui, c'est vrai que c'est questionnant. Parce que, en plus, ça n'a pas dû être si simple. Enfin, dans ces grosses boutiques-là, il faut négocier plein de trucs. Il aurait peut-être été plus peinard chez un petit éditeur. Ça aurait sorti un livre avec un papier de meilleure qualité. Enfin, voilà, je suis d'accord avec toi. Hein. Il y a des maisons indépendantes. Il y a surtout des maisons indépendantes qui font des bons bouquins et des beaux bouquins. Je sais pas pourquoi il sort mais on peut lui poser la question,
c'est pour
effectivement.
Le pognon, c'est parce qu'en gros, sortir là, un roman de Dufresne, là, c'est un gros coup pour une grosse maison d'édition.
En fait,
et donc il a eu un gros chèque.
Ce qu'on peut faire, c'est lui poser la question et voir s'il nous répond.
Très bien.
Est-ce qu'on fait une petite pause, on revient pour l'agenda?
Ouais. Alors, on va écouter un morceau de Rature, du coup, qui est une rappeuse qui a joué vendredi soir aussi pour la kermesse. C'était hyper bien son concert, c'est dommage que le son était vraiment pas à la hauteur, parce que ça aurait mérité du gros son. Hein. Mais bon, peut-être un gros fond de sexisme derrière tout ça. On en reparlera entre nous dans le bilan. Du coup, on écoute un morceau de Rature et après, il y a Nico qui a choisi un morceau des Cheval Hongrois, qui est un groupe de rap.
Ça y est, t'as réussi à passer ça.
Qui n'a pas joué à la kermesse, mais peut-être à la prochaine, on pourra les inviter. Hein. Et Cheval Hongrois, vous pourrez. Ouais, ils sont de Grenoble. Et Cheval Hongrois, on peut aussi les retrouver sur le site dont on a parlé tout à l'heure, hein, où on peut retrouver les morceaux de Puzz Mama, Serna et tout ça, qui s'appelle mix-zone.net. C'est un peu. Ils viennent pas des mêmes endroits, mais c'est un peu les mêmes crew de gens, des rappeurs qui ont vraiment des choses à dire. Et c'est parti!
Celle-là, c'est pour Nikki et Tonnerre, et tous ceux qui s'y reconnaîtront. RATUR, Amatomic Prod.
Amatomic Science Production. Juste une sale histoire de pognon et de shit. J'attends pas que cette bande de guignols m'explique. Viens dans cette mascarade qui m'excite. Voir mon pote partir pour 6 piches. Il a fauté certes, mais que fait le spi à part? Aiguiser sa peine, attiser sa haine, éloigner sa reine. Aiguiser sa peine, attiser sa haine, éloigner sa reine. Aiguiser sa peine, attiser sa haine, éloigner sa reine. Vous y avez des plaintes. Vous y avez des plaintes. Derrière vos murs et vos barreaux, vous poussez à ce qu'ils deviennent un monstre. Pour sa femme, il se tient à carreau. On finit par accepter les conditions, finir par accepter sa condition, c'est mort. On fera sédition face à leur ordre, à haine, à ses raisons. Au-delà des murs, elle résonne, au fond de nous, elle réside. Vie brisée, enfance cachée, vie exacerbée, abandon, abonnement à la crasse. Et tu oses dire que c'est pas de chance. Moi je prends le problème à sa source, éradique les soupçons, ensemble on pense nos blessures. Sauf que jamais ça ne s'arrête. Lorsque l'on s'apprête à sortir la tête de l'eau, vos mains nous y replantent. J'imagine bien vos cœurs, nos visages viennent perturber vos songes. Parce que nous, jamais on ne s'arrête. On tend vers la sagesse, mais le pardon ne sera pas attribué à tous. Pas de place pour la paresse. On charbonne pour une vie plus douce. La patience d'attendre la fin d'une peine, d'élever son môme seul. Survivre au coup de son homme, dans la bouche à coup de revanche. Nos luttes ne resteront pas vaines, atteintes des sommets. Nos liens nous empêcheront de tomber, et vous n'y pourrez rien. Vous pouvez enfermer des corps, vous n'y pourrez rien. Stigmatiser nos proches, vous n'y pourrez rien. Vider nos poches, vous n'y pourrez rien. Mon amour est aussi dur que la roche, et vous n'y pourrez rien. Vous y avez des pleins monstres, derrière vos murs. C'est à ce qu'il devienne un monstre. C'est pour sa femme qu'il se tient à carreau.
Dans le centre-ville, un terrain en friche, des arbres par la fenêtre sortent de la ruine. Pas un graffiti, ni une roue arrière. Ici c'est pas l'Afrique, mais le Finistère. Même si c'est biaisé, j'ouvre la criée. Je crie mort au port sur le port morlé. Je laisse des traces de pneus sur un scolopendre que la France attrape par-dessous la jambe. Hop, deux, trois canettes et de l'algue en boîte. Si boire en mer, c'est pas la mer à boire. Le mal de mer, plus la gueule de bois. Moins la marée basse, c'est de la merde en boîte. Allez, garde le sourire figé d'une biquette. Allez tous en rond, on est tous pompettes. Allez mon biquet, faut sortir le kit. Tu as mis le kilt, on est tous en quête. Vas-y, vas-y. Allez, qu'est-ce que t'attends? On est tous en quête. On n'a pas fini de se taire, on théorise les risques jusqu'au fin fond du Finistère. On reste assis par terre, à compter les séismes, jusqu'à saisir l'épicence de son système centriste. Insensé, antissé, franc comme un consensus. On a sucé la moelle de notre système vagal. On repart en vago, trois gogoles en polo. On va rendre visite à des néo-ruraux. Radicalise le bio jusqu'à sa gratuité. Dans ma double chapeau, on va pas chipoter pour un ragaman, même si la structure du raga est un concept lâche. Je te prépare des pâtes en déclarant ma flamme, mais je reste étouffe chrétien comme un kunyaman. Yes man. Et je vais nager dans la mer avec mon cœur en berne et mon petit corps de merde. Exact. On va tout piétiner, ouais. Même si pied sous terre. Jacques Bertin dans le Finistère. On finistème et les haricots. En traquant à Morlaix avec un bon merlot. Quand ils seront morts les cons, on sera content, tiens. On se racontera quoi, loin du Cotentin. On se contentera bien d'avoir l'âme légère. Comme Corentin et sa folle bergère.